Radio Prague, les informations.
Le gouvernement tente de réduire les effets de la crise financière européenne sur l'économie tchèque. Le ministre de la Culture réfute les accusations de corruption et débute un symposium de sculpture à Prague. Le Conseil national économique du gouvernement et le ministère des Finances envisagent des démarches visant à réduire les impacts de la crise de la zone euro en République tchèque. Parmi ces mesures figurent l'instauration de l'équilibre budgétaire, l'augmentation du taux de TVA à 20% ou encore la réduction du temps de travail dans les entreprises. L'information a été publiée ce lundi par le quotidien Hospodarska Novene. Selon le journal, le Conseil national économique du gouvernement et le ministère des Finances partent de 3 scénarios possibles de l'évolution économique de l'Europe. Les spécialistes élaborent également un plan de crise qui serait appliqué en cas d'éclatement de la zone euro. Les changements envisagés seront concrétisés par le ministère des Finances en janvier prochain. Le ministre de la Culture, Jiří Besser, a réfuté les accusations de corruption contre sa personne et s'est dit prêt à démissionner si des preuves étaient dévoilées. Monsieur Besser avait reconnu vendredi qu'il avait omis de faire état de ses parts dans une société basée aux États-Unis et de l'existence d'une propriété en Floride d'une valeur de 230 000 dollars. Le chef du groupe parlementaire du parti Top 09 a fait savoir qu'il était satisfait des explications du ministre, également de ce même parti, mais qu'il regrettait la présence d'un copropriétaire de la société récemment épinglé pour corruption. Monsieur Besser a fait savoir que la société en question n'avait jamais mené d'activité et n'avait généré aucun profit, mais qu'il était prêt à assumer ses responsabilités pour ses erreurs. Une lettre ouverte demande à Petr Hájek, un des proches conseillers du président Klaus, de s'excuser publiquement suite à ses déclarations polémiques sur le prêtre et philosophe Tomáš Halík la semaine dernière. Petr Hájek avait émis des doutes sur la réalité de l'ordination du prêtre. Celui-ci avait rejeté ses doutes et dans la foulée, l'archevêché de Prague avait publié un communiqué confirmant l'ordination de Tomáš Halík le 21 octobre 1978 à Erfurt en Allemagne. Tomáš Halík est connu pour ses critiques du président Václav Klaus. La lettre ouverte appelle Petr Hájek à s'excuser tout en rappelant que ses déclarations ne sont pas une nouveauté puisqu'il s'est fait remarquer à plusieurs reprises déjà pour ses théories conspirationnistes ou encore sa remise en cause du darwinisme. Les recherches se poursuivaient ce lundi au barrage de Lipno où deux jeunes Allemands sont portés disparus depuis samedi après que leur embarcation s'est retournée. Les recherches se poursuivront encore mardi. Le bateau était dirigé par 3 jeunes touristes de 21 à 25 ans. Un des jeunes Allemands a réussi à nager jusqu'à une presqu'île où il s'est évanoui avant d'être secouru dimanche. Les deux autres sont activement recherchés depuis. Et puis je vous le disais en titre, la galerie pragoise Dvorak Sek Contemporary organise cette semaine un symposium de sculpture en présence de 20 artistes tchèques renommés. Leurs œuvres sont exposées dans les locaux de la galerie Art Factory sur la place Venceslas. L'objectif des organisateurs est de présenter la sculpture tchèque moderne. Le public peut rencontrer les artistes lors des débats et visites guidées de l'exposition. On finit par un mot de météo mardi, jour de la Saint-Nicolas ou Mikuláš en tchèque. Le temps sera couvert pendant toute la journée. Les températures seront comprises entre 1 et 5 degrés pour les maximales. C'est la fin de ce bulletin d'information. Tout de suite, la suite du programme présenté par Magdalena Rozenková.
Faits et événements en République tchèque.
Bienvenue à l'écoute du programme d'actualité de Radio Prague et merci à Anna Kubišta pour son bulletin d'information. À l'affiche de notre émission aujourd'hui, l'envoi d'une trentaine de médecins militaires tchèques en Slovaquie voisine où les médecins hospitaliers ont démissionné en masse pour protester contre leurs faibles revenus. Ensuite, direction Slavkov-Austerlitz, ce week-end, plus de 8000 spectateurs ont suivi la reconstruction historique de la bataille des Trois Empereurs. Jean-Sébastien Létang a été parmi eux. Enfin, dans la rubrique sportive, Guillaume Narguet vous en dira plus sur les adversaires de l'équipe nationale de football à l'Euro 2012. Magdalena Rozenková vous souhaite une excellente écoute. Une trentaine de médecins militaires de Prague et de Hradec Králové sont arrivés en Slovaquie samedi, envoyés par le gouvernement suite à une demande du premier ministre slovaque Iveta Radičová. Ils remplacent dans les hôpitaux de Bratislava et 3 autres villes du pays les médecins slovaques démissionnaires. En effet, suivant l'exemple de leurs collègues tchèques qui avaient été près de 4000 à vouloir quitter les hôpitaux publics au 1er mars 2011, les médecins slovaques se battent eux aussi pour des salaires plus élevés et de meilleures conditions de travail. Mais alors qu'en République tchèque, les syndicats s'étaient mis d'accord à la dernière minute avec le ministre de la Santé sur une augmentation salariale, en Slovaquie, 1200 des 7000 médecins hospitaliers ont effectivement démissionné le 1er décembre. Le gouvernement slovaque a par conséquent décrété l'état d'urgence, le départ massif des médecins ayant paralysé les hôpitaux un peu partout dans le pays. Après que les ministres de la Santé des deux pays et le chef du gouvernement slovaque ont défini à Bratislava les modalités de l'aide tchèque financée par les deux parties, les médecins tchèques, des anesthésistes, chirurgiens et d'autres spécialistes encore sont arrivés samedi en bus en Slovaquie pour entamer immédiatement des services de nuit dans les hôpitaux de Bratislava, Nitra, Žilina et Ružomberok. Le hasard a voulu que quelques heures seulement avant leur arrivée, les négociations des syndicats médicaux avec le gouvernement slovaque aboutissent à un compromis. Les salaires des médecins devraient augmenter d'environ 300 euros pour s'élever à environ 950 euros pour un jeune médecin et à quelques 1755 euros pour un médecin expérimenté. Malgré cela, le gouvernement slovaque n'a pas renoncé à l'aide tchèque. On écoute le ministre slovaque de la Santé, Ivan Uhliarik.
Nous n'avons pas voulu prendre de risques. Notre objectif est que les soins soient assurés.
Les 29 médecins militaires tchèques ont donc bel et bien commencé leur mission en Slovaquie, une mission qui devrait se poursuivre jusqu'à ce que les médecins démissionnaires signent de nouveaux contrats. Par ailleurs, aucun médecin civil tchèque n'a répondu à l'appel lancé par le gouvernement slovaque. Le chef de l'état-major tchèque, Vlastimil Picek, explique.
Il s'agit d'un exercice militaire sur le territoire étranger. Les médecins militaires travaillent selon d'autres règles que les médecins civils.
À noter que l'envoi du personnel médical tchèque en Slovaquie a soulevé une critique dans les deux pays, notamment de l'opposition social-démocrate à Prague et des syndicats médicaux à Bratislava. Comme tous les premiers week-ends de décembre depuis 1998, l'association tchèque Projekt Austerlitz, Projet Austerlitz, a organisé une reconstitution grandeur nature de la bataille d'Austerlitz. Radio Prague était à Slavkov au Brna, en Moravie du Sud, pour recueillir les premières nouvelles du front, Jean-Sébastien Létang.
Et ce voleur de nuit alluma sa lanterne au soleil d'Austerlitz, écrivait Victor Hugo à propos de la plus célèbre des batailles menées par l'empereur Napoléon Ier. Souvent décrite comme un des plus grands succès stratégiques de l'histoire militaire, celle-ci s'est déroulée le 2 décembre 1805. Elle opposa les forces françaises à une alliance composée de l'Empire d'Autriche et de l'Empire de Russie. Cette bataille, dite des Trois Empereurs, se solda par une victoire de l'armée napoléonienne, pourtant moins nombreuse. Et Austerlitz se trouve désormais en République tchèque. Le lieu où la bataille a pris place est situé en Moravie du Sud, plus exactement à 8 km de Brno, dans le village de Slavkov u Brna. Comme nous vous en avions récemment parlé, l'association Projekt Austerlitz y organise chaque année, lors de son anniversaire, une reconstitution du célèbre affrontement. Samedi, ils étaient donc entre 500 et 600 reconstituants à venir combattre pour leurs empereurs. La plupart des reconstituants et des spectateurs étaient tchèques. Cependant, cet événement draine tout de même un certain nombre d'aficionados de la reconstitution napoléonienne venue d'Europe. À l'aube de la bataille, parmi les étals dispensant nourriture et vin chaud, nous avons interviewé un fantassin d'origine belge.
Alors mon nom de soldat, c'est Caporal Lacouture. Alors les surnoms qu'on a viennent en général de particularités qu'on a. Comme je fais la couture dans mon unité, c'est pour ça qu'on m'a surnommé la couture. Alors mon nom officiel, c'est Guy Ginard, je suis originaire de Belgique et je viens participer à la reconstitution de la bataille d'Austerlitz. Ah, ici je représente un soldat de la ligne, c'est-à-dire un fantassin classique de la garde impériale.
Nous lui avons également demandé comment allait se dérouler la reconstitution et quelles règles régissent les combats.
Alors la bataille essaye de reconstituer au mieux et au plus proche la bataille telle qu'elle s'est déroulée à l'époque, mais en prenant quelques raccourcis afin bien sûr qu'on n'a pas la journée complète comme à l'époque on avait. Il faut compter à peu près une heure à une heure et demie de combat. Donc vous allez voir différents mouvements de troupes en fonction de ce que les alliés et les troupes françaises vont réaliser. Il y a des grandes lignes. Puisqu'on essaye de refaire la bataille de l'époque, on va, autant que faire se peut, essayer d'interagir au maximum comme à l'époque, c'est-à-dire en fonction des unités présentes, on va les faire rentrer en action le plus proche possible de ce qui s'est situé. Maintenant, il y a des grandes lignes directrices Et ensuite, ben, il y a toujours cette part d'imprévu. Il y a toujours un peu. C'est pas de l'improvisation, c'est on s'adapte en fonction de la situation du terrain. S'il y a une unité qui est perdue plutôt que prévue, ben, les autres devront s'adapter, comme à l'époque. Donc tous les ordres de tir sont soumis aux officiers qui font appliquer via des exercices avant le combat mais toutes les pratiques, beaucoup d'entraînement, c'est beaucoup d'heures à s'entraîner seul, en groupe, et ensuite ben, qui décide de mourir ou pas mourir ? La chance. Quand on en a, on en a, quand on n'en a pas, on meurt.
Pendant une heure et demie, donc, les reconstituants vont s'affronter au rythme des coups de feu et des tirs de canon en lisière du village dominé par la colline du Santon. Une reconstitution très stratégique et complexe, décrite aux néophytes par un commentateur. La beauté des costumes et le réalisme des mouvements de troupes sont impressionnants quand on sait que les figurants sont avant tout des amateurs bénévoles, comme le précise le caporal Lacouture.
Il n'y a pas de professionnalisme dans la reconstitution, ce sont surtout des passionnés, des gens qui ont envie de vivre une époque, un style de vie, parce qu'un reconstituant essaye au mieux d'être tel que le soldat était à l'époque. On ne peut pas reproduire tout comme à l'époque, mais on essaie de s'en approcher le plus. C'est plus une passion, on aime ça, c'est l'histoire, c'est pas uniquement l'armée, mais c'est tout ce qui tourne autour. C'est comment vivaient les gens, aussi bien le peuple que la noblesse. C'est tout, c'est un ensemble.
Une parenthèse hors du temps qui, grâce à l'association Project Austerlitz, permet chaque année à des centaines de passionnés de revivre dans les conditions d'époque un des épisodes les plus marquants de l'histoire militaire européenne.
On passe au sport. Depuis vendredi, l'équipe de République tchèque de football connaît les trois adversaires qu'elle affrontera lors du premier tour de l'Euro 2012 en juin prochain. Et avec la Pologne, la Grèce et la Russie dans son groupe, la Reprezentace peut s'estimer très heureuse de l'issue du tirage au sort. Et la rubrique sportive est présentée par Guillaume Narguet.
Sport en République tchèque.
Le tirage au sort de la composition des groupes de la phase finale du championnat d'Europe 2012 de football a donc été effectué vendredi à Kiev en Ukraine, co-organisatrice du tournoi avec la Pologne. Placée dans le chapeau 4 des équipes supposées les plus faibles avant le tirage, la République tchèque pouvait craindre le pire. Finalement, le sort a été très clément avec la Pologne, la Grèce et la Russie pour adversaires dans un groupe A qui laisse augurer de raisonnables chances de qualification. Les Tchèques pouvaient difficilement espérer beaucoup mieux. Et ce, d'autant plus qu'ils disputeront leurs trois matchs du groupe à Wrocław, distante de seulement quelques dizaines de kilomètres de la frontière tchéco-polonaise.
The team who will play against Poland in group A. Let's see. Republic Czech.
Lorsque Zinedine Zidane, un des anciens joueurs vainqueurs de l'Euro, invité à effectuer le tirage au sort, a sorti et lu le petit papier sur lequel était inscrit le nom de la République tchèque, le sélectionneur Michal Bilek n'a pas pu s'empêcher de laisser échapper un petit sourire de satisfaction. Ou de soulagement, c'est selon. Son équipe venait en effet d'être placée dans le groupe A, en compagnie de la Pologne, l'équipe a priori la plus abordable avec l'Ukraine parmi les quatre pays figurant dans le chapeau 1, où se trouvaient également l'Espagne et les Pays-Bas. Et lorsque les noms de la Grèce et de la Russie ont été annoncés pour compléter le groupe A, au lieu par exemple de l'Allemagne ou du Portugal, le manager de l'équipe nationale, Vladimir Schmitzer, a carrément préféré se cacher le visage dans les mains.
Il y avait plusieurs possibilités avant le tirage. Les journalistes avaient annoncé que le tirage idéal pour nous serait de tomber précisément dans ce groupe-là, qui, il faut le reconnaître, n'est pas le plus difficile. Les autres groupes sont, je pense, autrement plus compliqués. Mais je suis surtout très content de tomber sur la Pologne.
Nous pouvons être contents de ce tirage au sort car les trois autres groupes sont beaucoup plus relevés. L'autre bonne nouvelle est que nous allons jouer nos trois matchs à Wrocław. Nous ne devrons donc pas voyager et surtout c'est juste à côté de chez nous, ce qui est idéal pour les supporters.
Confirmé de son côté, Michal Bilek, bien conscient que le sort avait épargné son équipe.
Aux yeux du public, c'est un groupe à notre portée et il faut bien admettre que l'on ne pouvait pas espérer mieux.
Mon souhait était d'être placé dans le groupe de la Pologne, de prendre la Grèce ou la Croatie, et c'est ce qui s'est passé. Mon troisième souhait était de tomber sur l'Angleterre, car c'est toujours un adversaire un peu à part pour les joueurs et les supporters. Mais bon, on ne va pas se plaindre de jouer contre la Russie.
Pour autant, les Tchèques ne sont pas dupes. S'ils estiment avoir le potentiel pour terminer à une des deux premières places de leur groupe et se qualifier ainsi pour les quarts de finale, ils savent bien aussi que leurs adversaires en pensent tout autant, comme l'explique le gardien Petr Čech.
Les quatre équipes auront plus ou moins les mêmes chances de qualification. Les trois autres doivent être aussi contentes de jouer contre nous. Nos adversaires doivent penser qu'il vaut mieux tomber sur la République tchèque que sur la France, par exemple. À mon avis, ce sera donc un groupe très équilibré, car il n'y a pas vraiment de favori qui en ressort sur le papier.
Très équilibré sur le papier, ce groupe A, très slave aussi, sera assurément le groupe le moins attrayant et probablement le plus faible du premier tour de l'Euro, loin par exemple de la qualité du groupe B dans lequel se trouvent les Pays-Bas, l'Allemagne, le Portugal et le Danemark. Mais il s'agit là de considérations qui ne dérangent pas le sélectionneur Michal Bilek, qui a déjà d'autres préoccupations en tête.
Déjà avant le tirage au sort, j'avais dit que notre objectif serait de nous qualifier, quel que soit la composition du groupe. Bien évidemment, je n'ai pas changé d'avis après le tirage, mais je ne peux pas dire aujourd'hui quelles sont nos chances de qualification. Je pense que ce sera un groupe très équilibré. Il ne faut pas oublier que la Russie et la Grèce sont des équipes de qualité, et la Pologne chez elle, devant son public, sera aussi certainement très difficile à battre.
En cas de qualification pour les quarts de finale, les Tchèques auraient à affronter une des équipes du très redouté groupe B. Ils pourraient ainsi retrouver le Portugal, comme en 1996 en Angleterre. Considéré comme aujourd'hui alors comme un des plus grands outsiders du tournoi, les Tchèques, malgré un jeu proche du néant en quart et en demi-finale, étaient parvenus jusqu'en finale. À 23 ans, le jeune Vladimir Schmitzer, qui s'apprêtait alors à quitter le Slavia de Prague pour le championnat de France et le RC Lens, avait été un des héros de cette épopée. 16 ans plus tard, le manager de l'équipe nationale estime les Tchèques capables de surprendre, comme à l'Euro 96.
Oui, je pense qu'on peut faire le parallèle. À l'époque, il y avait aussi beaucoup de joueurs de l'équipe nationale qui jouaient encore dans le championnat tchèque. C'était le cas de Pavel Nedvěd, Karel Poborský, Radek Bejbel ou le mien. Aujourd'hui, il y a les joueurs de Plzeň ou Gebrselassie de Liberec. Comme nous, à l'époque, ce sont des joueurs qui ont faim et cette faim pourrait nous aider à créer la surprise comme en 96.
Pour savoir si les Tchèques ont réellement le potentiel pour surprendre, il faudra désormais attendre jusqu'au 8 juin prochain. Quelques heures après le match d'ouverture entre la Pologne et la Grèce, la République tchèque disputera alors son premier match contre la Russie, un premier match qui confirmera ou infirmera déjà si le tirage au sort était vraiment si favorable comme tout le monde aujourd'hui semble le penser.
C'est par cette rubrique sportive que s'achève le programme de Radio Prague en langue française. Magdalena Hrozinková vous remercie de l'avoir suivi.